Fun FM vous présente Mon corps et moi, le rendez-vous des médecines douces et naturelles avec Jacques Bocquet, magnétiseur.
Il a eu peur, hein.
Mais tu es dans une forme ce matin.
C'est... Ça surprend, hein. Mais c'est Halloween, donc on s'est mis aux couleurs évidemment de cette thématique de la journée. Bon, oui. Nous c'est des gentils frissons et surtout qu'on est là pour vous détendre après.
Oui.
On n'est pas là pour vous stresser a priori. Jacques Bocquet qui est avec nous, salut Jacques.
Salut.
On va parler peut-être quand même de la peur aujourd'hui du coup, parce qu'on se dit que c'est plutôt raccord.
Oui, mais en même temps, la peur, on peut avoir peur de plein de choses, mais on peut avoir aussi des gens qui nous font peur.
Aussi.
Voilà. Et surtout Halloween, c'est le moment de faire peur à ses voisins. Donc on aura l'occasion d'en parler un petit peu parce ouais. que c'est juste en fait le reflet de nos propres peurs à nous. Donc
qu'on extériorise.
Voilà. Qu'on essaye de voir si le voisin a la même peur des araignées ou des têtes de monstres. Donc, mais en général, c'est quelque chose qu'on projette sur quelqu'un. Donc,
voilà. Et puis on pourra parler aussi, il y a les films d'horreur. Donc on aime se faire peur aussi. Donc voilà, la peur, elle a parfois des conséquences pas forcément très agréables sur l'organisme. On a eu l'occasion d'en parler. On en reparlera. Mais parfois, c'est aussi salutaire finalement.
Oui, c'est salutaire. Après, certains films d'horreur, bon, on a beau se dire c'est un film et c'est du cinéma, bon, quand on voit une araignée géante qui fait 4 mètres de haut, bon, on se dit c'est du cinéma. Il y a certains films quand même qui sont un peu plus difficiles à regarder, je pense à Saw par exemple, la série des Saw.
Le nouveau sort demain.
Voilà, et quand, comme par hasard, on a comme ça, ça nous fait une barrière, pour un pont pour en parler plutôt, t'as une barrière. Et donc en fait, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans ce genre de film où les gens se font ouvrir en deux, les mains trempées dans l'acide et tout, je sais pas quelle peut être la projection des peurs du réalisateur, mais à mon avis, il faudrait qu'il consulte.
C'est ça, ça cache quelque chose.
Voilà, à mon avis.
C'est ça, c'est voilà le spécialiste qui parle en tous les cas. Si vous êtes amateur de films d'horreur, ce sera peut-être l'occasion aussi d'en parler. Pourquoi pas d'échanger avec nous d'ailleurs. Venez nous raconter ce que vous cherchez au travers du visionnage de films d'horreur. Si vous êtes vraiment un accro de chez accro, venez nous donner des conseils. D'ailleurs, on est toujours avide de bons films d'horreur parce que c'est pas facile à trouver. Hein, ça dit les bons films d'horreur. Vous regardez Le Retour de Chucky par exemple, puis vous allez rire surtout, l'envie d'avoir peur.
Les films d'horreur, ça peut être sympa à regarder avec une copine, par exemple.
Voilà, pour qu'elle vienne se blottir.
Si vous êtes un petit peu timide et que vous n'osez pas faire des rencontres, vous mettez un bon vieux film d'horreur quand vous avez un repas comme ça avec une petite amie. Mm. Et en général, au bout de 5 minutes, elle est calée dans vos bras. Et...
Non, mais ça marchait quand tu étais jeune, en 1930. Oui, mais maintenant, ça ne fonctionne plus du tout.
Au début du cinéma.
C'est ça, quand c'était encore avec les frères Lumière, souviens-toi. Mais aujourd'hui, c'est les femmes qui sont accro aux films d'horreur. Hein, donc,
je me vengerai.
Les choses ont beaucoup changé. Mais bon, on aura l'occasion de parler de tout ça. Pas que, hein, évidemment. On va parler de plein de choses. Il y a eu des questions également d'auditeurs cette semaine sur les réseaux sociaux par mail, parce qu'on rappelle que le principe de l'émission, c'est aussi d'expliquer quels sont les liens entre le corps et l'esprit,
donc,
vos petits bobos, d'où ils peuvent venir dans votre façon de vous comporter ou de penser. On va expliquer tout ça jusqu'à midi. Vous pouvez vous aussi rejoindre l'émission, donc 05 55 56 21 44. Un petit peu de détente avec Lara Fabian.
Oui.
Une douleur aux oreilles pour certains, peut-être. Pour d'autres, ça
il
leur fera plaisir. Un extrait de son nouvel album, voici Communify. Et juste après, nous ouvrons cette émission. À tout de suite.
Hello.
Understand.
La technique de la semaine.
Et c'est parti donc pour ce nouveau numéro de Mon Corps et Moi. Officiellement, le siège est à hauteur, tout va bien.
Oui, ça va.
En galère de tabouret ce matin, Jacques.
Oui, je sais pas.
Il y a des jours sans comme ça.
Il faut que je m'assoie sur le problème en fait pour arriver à le régler.
Ah, il faut qu'on analyse tout. Ici, tout, ouais. tout. Dès qu'il se passe un truc dans ce studio, on analyse.
Ah, on prend vite l'habitude, t'as vu?
N'est-ce pas? Ah. Alors, bon, avec toi aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On l'a dit, on va parler de la peur. On pourra peut-être parler du changement d'heure aussi et de saison.
Alors ça,
qui a quelques répercussions.
C'est quand même phénoménal.
Ouais.
Une heure, on se rend pas compte, hein. Une heure sur 6 mois.
Ouais.
Mais ça perturbe les enfants, les animaux, les personnes âgées.
On parlera des personnes âgées puisque tu es là, donc ce sera l'occasion. Mais d'abord, peut-être un petit retour. Je m'en fous, j'ai déjà pris mon pain au chocolat, donc maintenant je peux dire ce que je veux, pour pas me le reprendre.
J'ai bien compris.
On va juste peut-être récapituler pour ceux qui arriveraient, puisque voilà, on est déjà, je sais pas, sur la, quoi, 8e émission, 7e édition, je ne sais pas, de ce rendez-vous, qui traite des médecines douces et naturelles. Ça veut dire qu'on a déjà évoqué pas mal de sujets.
Peut-être récapituler
tout ce qu'on a déjà dit et expliquer un petit peu ce qu'englobe ce terme de médecine naturelle et douce.
Après, on a essayé de survoler peut-être des fois un petit problème. L'autre fois, on a parlé du magnétisme. Forcément, on n'en a pas parlé de façon très profonde et très sérieuse, mais parce que...
On y revient, on n'est pas en juin. Hein.
Voilà, on n'est pas en juin, et puis il faut qu'on se garde un petit peu de puissance sous la pédale, comme on dit. Donc, mais en même temps, on survole un petit peu tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a quand même plein de possibilités, plein de choix. Par exemple, vous savez que depuis le début de cette émission, on a déjà parlé de l'acupuncture, donc qui est d'origine chinoise, application de très fines aiguilles en certains points du corps sur le parcours de méridiens d'énergie. On a parlé de la maxibustion, donc c'est la même technique, mais qui stimulation par la chaleur des points d'acupuncture.
On a déjà parlé les aiguilles.
On les chauffe au fer rouge, rouge pour qu'elles soient bien. Il y a aussi les aiguilles pour tatouer, mais celles-là, on les chauffe pas. On va en parler parce qu'en fait, je dis ça parce qu'il y a l'art-thérapie. On va voir après qu'il peut être une technique de soins, c'est-à-dire pratiquer des activités sur l'art artistique dans un but thérapeutique. Le tatouage peut faire partie d'une technique. Donc, on a déjà parlé de l'aérobic pour ceux qui sont courageux, qui sont pleins de bonne volonté, qui ont, voilà. On a parlé de la technique Alexander, donc, je sais qu'on avait eu des messages, c'est peut-être de ma faute parce que j'avais pas très bien expliqué la technique parce que c'est très compliqué à comprendre au départ. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que j'ai eu certaines questions en me disant ben on n'a pas trop saisi. Bon, je suis désolé. Ça c'est peut-être, je l'ai peut-être expliqué avant le café parce que vous avez remarqué qu'après le café ça va beaucoup mieux. En même temps, je cherche une excuse. Voilà.
Toutes les excuses sont bonnes.
On avait parlé d'alicaments, donc ce sont les aliments utilisés pour leurs propriétés thérapeutiques. On a déjà parlé d'alimentation dissociée, donc qui est un régime alimentaire consistant à ne pas mélanger tous les aliments entre eux, et là on avait fait bondir les gens. Je sais pas si tu te rappelles, parce qu'on avait dit il y a deux choses qu'on adore
et qu'il faut pas.
Qu'il faut pas, c'est le steak et les frites, et c'est les fraises et la chantilly. Et là, donc, on a vu un tollé de...
On a perdu les auditeurs ce jour-là, je me souviens.
Oui, ils sont partis sur des radios concurrentes, on le sait très bien. Non, mais en même temps, par contre, il y a une chose qui est sûre, il faut quand même comprendre, c'est que moi, j'ai rien inventé, je me contente de répéter un petit peu ce que je lis, donc et ce que j'apprends comme ça, de temps en temps, sur
différents... On dit beaucoup de bêtises, mais il y a quand même un fond sérieux, je tiens à la rappeler dans cette émission.
Mais en même temps, les bêtises, c'est pas moi qui les invente, moi, je me contente de redire ce qu'on me dit, donc c'est peut-être aussi, j'ai peut-être besoin d'une thérapie, moi aussi,
c'est ça.
À force de trop de baigner dans le truc. Peut-être que je me rends compte.
L'anrithérapie.
C'est vrai que la dernière fois, on avait parlé d'une grosse ânerie, c'était réparer les voitures à distance.
Exactement.
Bon, peut-être que l'alimentation dissociée, je sais pas, peut-être que le steak frites, c'est une invention, mais en tout cas, c'est ce que j'avais lu, qu'il fallait pas du tout. On avait parlé d'une technique qui avait beaucoup fait rire les gens et qui avait soulevé aussi des questions, qui s'appelle l'amarali ou urinothérapie. Donc là, alors déjà, le problème, c'est boire son urine. Alors, là, on explique un petit peu, c'est consiste à boire sur certaines conditions une partie de son urine. Il est bien évident que vous n'allez pas boire l'urine du voisin, en plus, parce que c'est déjà difficile, donc il vaut mieux que ça soit
sauf à la fête des voisins, en quel cas, évidemment, on peut trinquer, partager,
faire passer du cidre.
C'est un cas très particulier.
Pour ceux qui ont un petit peu le pipi qui mousse, on peut faire passer du cidre, mais ça va vite déchanter. Mais en fait, c'est pour stimuler les défenses de l'organisme. Donc,
et ça se fait, hein, dans d'autres coins du monde. Je dirais que chez nous, ça nous paraît surréaliste, mais ça se fait.
Ça se fait. Donc, il y avait d'ailleurs la première chose qui avait été faite par rapport à ça, et on va parler encore cinéma, puisqu'on a démarré l'émission en parlant cinéma.
C'est le mardi, donc le mardi c'est cinéma ici.
Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film Waterworld.
Je l'ai pas, Kevin Costner.
Kevin Costner, et bien dans le film, il est sur un catamaran, et à un moment donné, il fait pipi dans une boîte, ça passe dans un espèce de circuit, et en fait, après, on voit qu'il reboit. D'accord. Le truc. Donc là,
c'est comme dessaler l'eau de mer finalement.
Voilà,
c'est,
c'était un petit peu la maralie, donc la première urinothérapie qu'on avait vue vraiment au cinéma. Ensuite, on avait parlé de l'analyse bioénergétique. Donc c'est une psychothérapie basée sur le lien entre la typologie caractérielle et manifestation corporelle.
D'accord, t'es
ça va bien, hein, tout ça avant le café. Mmh. On avait parlé des massages aman, donc ouais. Aman, voilà.
Massage habillé, assis, etc.
Voilà.
Là, ça j'ai suivi, hein, t'as vu.
Parce que vous, il y a plein de déshabillés, tout, c'est plus du tout les mêmes massages. On avait parlé de la médecine anthroposophique. Je sais pas si tu te souviens de
cette, moi.
Voilà. Tu vois, tu oublies tout.
J'ai hein, c'est ça.
Il faut que je te rappelle.
J'espère alors, que j'aurai au moins la moyenne sur l'examen, mais.
Alors, la médecine anthroposophique, pour ceux qui ont tout suivi et qui ont tout compris, c'est une médecine qui est fondée sur une philosophie qui étudie la dynamique des forces naturelles. Voilà. Il y a beaucoup de
donc
choses.
Donc, on comprend rien sur le titre ni sur la définition. C'est ça voilà. Qui est pratique, en fait.
Mais en même temps, ça rajoute une petite technique dans notre panacée de techniques de médecine douce. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on en connaît beaucoup les plus utilisées.
Tout ça, c'est, voilà, c'est pour dire que tout ça, c'est des médecines douces. Voilà. Donc, ça paraît, voilà, on parle de l'alimentation, on parle de choses très diverses.
Il y a beaucoup de médecines douces qui sont basées sur le fait de provoquer dans le corps une stimulation ou un regain d'énergie ou une défense naturelle. Donc, il y a beaucoup de techniques. Le but, on en parle, en fait, c'est parce que on ne sait pas tout sur ces techniques. Par exemple, l'urinothérapie, il n'y a pas beaucoup de résultats scientifiquement prouvés. Mais si vous avez envie, si vous le sentez et si vous êtes prêt, vous pouvez très bien essayer. Et pourquoi pas un jour nous appeler dans cette émission ou nous laisser un petit mot sur les réseaux sociaux en disant « Mais voilà, moi j'ai essayé cette technique-là, ça marche bien ou ça marche pas du tout. » En ce moment, il y a un grand débat qui, par exemple, sur l'homéopathie, j'ai lu quelque chose d'assez hallucinant. Ça fait 25 ans que cette technique existe. Et scientifiquement, il n'y a aucun résultat de prouvé. Et pourtant, c'est une technique qui se développe de plus en plus. Beaucoup de gens y viennent parce que ça a un côté quand même beaucoup moins chimique, on va dire, puisque c'est quand même une prise de cachet. On peut l'appeler comme ça, mais
petites billes.
Voilà, des petites billes. Mais le problème, c'est que ben on n'arrive pas à avoir une preuve scientifique de l'efficacité de l'homéopathie. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe et qui est vraiment à la mode. Donc, si vous avez ce genre d'expérience là ou sur une autre technique et qu'effectivement, voilà, on n'en parle pas beaucoup et tout, vous avez aussi le droit de nous faire part de vos sensations et de nous dire, ben écoutez, moi j'ai essayé telle technique. Je vous rappelle qu'il y en a 240. Bon, j'ai essayé ça. Et ça marche très bien pour j'ai soigné telle thérapie avec cette technique là. Donc on est à la recherche aussi de témoignages parce que peut-être que ben, il faut apporter de l'eau au moulin de la science et essayer de voir si on peut prouver des choses.
Oui, c'est vrai. Contrairement à la médecine traditionnelle qui va vous donner un sirop parce que vous avez mal à la toux et effectivement biologiquement ça va vous faire passer la toux, là vraiment chacune de ces techniques va pas forcément correspondre à tout le monde. Donc il faut vraiment essayer, farfouiller et puis jusqu'à tomber sur la bonne.
C'est pour ça qu'il faut fouiller.
Donc voilà. Ensuite, et on en aura plein effectivement encore à vous donner.
Voilà. Donc après on a parlé de l'apithérapie. Donc l'apithérapie, c'est pas de mettre Colin Farrell tous les matins sur le sur la le poste. L'apithérapie, l'api, c'est pas api HAPPY, c'est API. Donc c'est vraiment basique comme thérapie.
API en fait, futur.
Voilà. C'est surtout l'utilisation des produits des abeilles en vue d'améliorer, de maintenir la santé. Il y a des choses qu'on ne sait pas à propos des abeilles. On pense tout de suite au miel, on pense bien sûr à la cire qui fabrique des bougies, mais on peut aussi avoir plein de choses qui sont des produits dérivés des abeilles et qui sont très intéressants au niveau de la santé. Donc à rechercher, à méditer, à utiliser.
On avait parlé de la piqûre d'abeille aussi. Hein.
Oui, on avait parlé de la piqûre d'abeille puisqu'on peut soigner avec du venin d'abeille. Et comme on peut soigner certaines choses avec du venin de serpent. Un petit mot aussi par rapport aux abeilles, je vous rappelle quand même qu'elles sont indispensables à notre vie, à notre survie. Donc faudrait peut-être arrêter de... Voilà. Il faut peut-être arrêter un petit peu de faire n'importe quoi et commencer à protéger ces petites bestioles qui sont pas très grandes mais qui sont très efficaces.
Voilà, et quand elles seront plus là, on comprendra à quel point elles manquent, mais ce sera un petit peu trop tard malheureusement.
On risque de pleurer un petit peu.
Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ?
On avait parlé de l'argilothérapie, donc utilisation des argiles vertes et blanches, ce qu'on appelle le kaolin, en usage interne ou externe, à des fins thérapeutiques, voire aussi terre-argile. Donc en fait, c'est surtout les argiles, on les connaît sous forme de masques. Donc là, on peut se faire peur le matin avec des masques verts.
Et
on peut le mettre en compresse. C'est très efficace. Par exemple, l'argile blanche est très efficace ou l'argile verte est très efficace quand vous avez par exemple une épine ou quelque chose d'enfoncé dans la peau. Vous faites un petit cataplasme d'argile ou un panari sur un doigt ou sur un orteil. C'est très très efficace. Vous faites une espèce de petite pâte pas trop liquide, que vous appliquez sur l'endroit de la blessure. Vous mettez une petite compresse, vous passez la nuit dessus. Si vous n'avez pas de compresse, vous mettez un petit peu de papier d'aluminium autour du panari, par exemple. Et le matin, en général, le panari est percé, la douleur est partie. Voir l'épine, l'épine est aussi rentrée dans l'argile, et ça peut être quand même très intéressant. Ça fait partie des choses qui demandent rien, aucune connaissance, rien, mais qui sont quand même très efficaces. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, on avait parlé de l'aromathérapie, on avait survolé l'aromathérapie. Là, on va peut-être un petit peu juste en parler aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses, notamment par rapport à l'heure, le changement d'heure et tout, ouais. qui vont peut-être provoquer des choses chez les gens. Il y a le changement de saison. Le problème du mois d'octobre, c'est qu'on arrive à un moment donné où on est en train de changer de saison par rapport entre l'été et l'automne. Il faut que le corps s'habitue, parce que l'automne, c'est quand même le signal de la nature qui baisse en énergie. On commence à avoir vraiment
et nous aussi
parce qu'on est lié tout simplement à cette nature là et donc l'aromathérapie, je vous rappelle que c'est la branche d'une phytothérapie. Donc la phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes, et donc l'aromathérapie, c'est une branche de la phytothérapie qui utilise des huiles essentielles de plantes. À ce petit sujet, je vous rappelle quand même, pour tous ceux que ça intéresse, l'aromathérapie, parce que c'est une technique qui est quand même assez connue, donc plein de gens s'y intéressent. On essaye de faire les choses tranquillement. Attention à l'utilisation des huiles essentielles, notamment si vous êtes enceinte par exemple, parce qu'il y a vraiment des contre-indications très très sérieuses à prendre très au sérieux. Et il y a aussi, par exemple, on conseille, sur une utilisation d'huile essentielle, de faire 3 semaines de cure, et après de faire une petite pause d'une semaine et de reprendre 3 semaines. Donc la méthode la plus simple, quand on connaît pas trop les huiles essentielles, c'est ce qu'on appelle de trouver des cachets neutres. Et ces cachets neutres, on met 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle, de telles huiles essentielles pour soigner tel problème, et on avale un cachet, comme on prendrait un petit cachet de médecine naturelle, normale. Donc voilà, mais voilà, pas plus de 3 semaines. Donc sinon,
puis on demande conseil au médecin, comme ça on est sûr de pas faire de bêtises en fonction si on a des allergies ou ce genre de choses. Donc voilà, le médecin pourra vous donner des infos. Bon, on va peut-être marquer une pause, parce que du coup je te vois là.
Je suis lancé.
Tu vas t'épuiser.
Je suis chaud.
On appelle un quart d'heure, ça y est, tu vas être au bout du rouleau. Voilà. Donc je vais te laisser souffler quelques instants avec The Script, par exemple, en musique, puis après, voilà, on reviendra peut-être plus en détail aussi sur huiles essentielles, toutes ces choses-là, voilà, que tu proposes d'ailleurs, hein, pour profiter pour le dire aussi.
Oui, voilà, merci pour la.
Voilà,
je te ferai le chèque.
Pour ceux qui iront jusqu'à l'Ubersac en Corrèze, eh bien, vous pourrez aller jusqu'à la boutique de Jacques qui vous propose plein de choses. On pourrait parler de l'encens, hein, il y a plein de choses dans la boutique, notamment en plus des consultations. Et puis on s'intéressera à la peur, évidemment. Halloween oblige, on verra quels sont les bons effets et ceux qui le sont moins dans le courant de cette émission. Et encore une fois, si vous voulez témoigner vous aussi de vos expériences avec les médecines douces et naturelles, on vous attend. 05 55 56 21 44.
Is a shout out to those who never cared. I got scrapes on my heart from all the battles, and I owe you for getting me prepared. I tip my hat to all the haters. Got a handshake for lovers from the past. I got a peace sign for all you backstabbers. You're not the first and you sure won't be the last. Minute by minute it took me time. Little by little it could be line by line. I'm proud of these scars cause of my mind, oh. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make you sweet. It's written in the stars. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make you sweet. It's written in the stars. It's written in the stars, yeah. It's written in the stars, yeah. Every scratch is a new tattoo. Cause those lines on your face, they tell a story of how you became, you became you. So put your arms around the doubters and chunk out those when they push below their belt. They give it up for the ones who lit the matches, cause you can find proof I'm going through hell. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make you sweet. If it's hurting right now, if it's hurting right now, it's gonna make us who we are. It's written in the stars. It's written in the stars, yeah. 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 Make us who we are, yeah, who we are, who we are. It's written in the stars, yeah. It's written in the stars, yeah. It's written in the stars, yeah.
Avec Written in the Scars à l'instant sur Open FM, et c'est tellement bien prononcé. On repart au cœur de notre rendez-vous. Il faut bien se faire plaisir, hein.
Non, je vois ça.
En même temps, puisque je voyais que tu n'allais pas le dire. Donc je me dis, bon, allez,
ouais,
fais-le toi-même.
Tu as raison.
On est au cœur de cette émission, Mon corps et moi, émission détendue.
Ouais. Ouais,
Jacques,
alors, ouais.
Jacques peut vous faire du bien au corps et à l'esprit, mais
massage sous les pieds.
Sa seule venue dans ce studio, déjà, ça fonctionne bien.
Merci, monsieur est trop bon.
Nous sommes détendus pour continuer de parler de toutes ces médecines douces et naturelles. Alors, on va continuer le petit déroulé dans quelques instants de ce qu'on a déjà évoqué. Enfin,
oui.
On fait un petit rappel comme ça.
Voilà.
On est
plaisir.
Au milieu du premier trimestre. Ça en fait un petit bilan.
Voilà, donc nous allons faire effectivement le bilan du premier trimestre.
C'est avec ça. Ça va pas être très réjouissant. On a vu que j'avais quelques lacunes déjà.
Le conseil de classe et les notes.
Voilà.
Pour savoir si le redoublement est.
Si on revient l'année prochaine ou pas. juste avant, peut-être quand même, profitons-en aussi pour répondre aux questions de nos amis, puisqu'ils te laissent des petits messages par les réseaux sociaux dans la semaine. Alors, on a Laurent qui revient sur un sujet qu'on a déjà abordé, mais c'est vrai que certains n'étaient pas là forcément au début de cette série à la rentrée.
Attention, j'ai les noms des absents.
Voilà,
attention.
C'est ça. Mais déjà, Laurent, ça part mal, hein, mauvais point. On va répondre quand même, mais mauvais point. Laurent qui nous a écrit de Limoges et qui nous dit qu'il a la deuxième cervicale régulièrement bloquée, et il voulait savoir si tu pouvais lui redire à quel serait le lien.
Bon, je récapépète depuis le Bédu pour ceux qui n'étaient pas là.
On va prendre un coup de règle sur les doigts, alors attention
hein, ça va
ça
coûter
va pour cette fois,
mais ça peut coûter un paquet de croissants. Voilà. Attention. Alors, la deuxième cervicale, c'est le manque de reconnaissance, le manque ou le besoin de reconnaissance. Donc, alors ça, c'est un sujet qui est un petit peu délicat à aborder, parce que je voudrais pas me fâcher avec les messieurs qui écoutent cette émission. J'ai souvent vu des gens qui, par exemple, sont en couple, en famille, et puis d'un coup, on sait pas pourquoi, le monsieur se lève et se met à faire la vaisselle. Une chose jusque-là.
Ça n'arrive jamais, hein,
ça c'est un petit
dans
peu
la vraie vie, ça n'arrive jamais.
Voilà, c'est un petit peu comme l'histoire qui dit combien de temps met un homme pour changer le rouleau de papier dans les WC. Mais en fait, on ne sait pas parce que c'est jamais arrivé.
C'est un peu ça. Si maintenant ils ont inventé le rouleau qu'on jette dans les toilettes.
Voilà.
Ça fait faire un petit mouvement quand même, mais.
Même ça, Même ça c'est encore difficile parce que j'en connais qui stockent les rouleaux et qui ne les jettent pas forcément dans les toilettes.
Qu'est-ce que tu veux en faire? Mais ça peut servir.
Alors, revenons à la reconnaissance de.
Voilà, c'est ça.
C'est de Laurent, c'est ça
De Laurent de Limoges.
Voilà. Alors, le besoin de reconnaissance, donc je termine mon histoire de vaisselle, parce que ça va. Là, par contre, je sais que je vais me faire beaucoup d'amis féminins, beaucoup d'amis féminines ou féminins, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Parce qu'en fait, donc il y a un homme qui va faire la vaisselle, et puis il va se retourner à ce moment-là vers sa femme, et puis il va se dire: t'as vu, chérie, j'ai fait la vaisselle. En fait, on n'a pas besoin de le dire.
C'est ça, voilà.
Parce que déjà,
la femme ne le dit rarement.
Voilà. En même temps, c'est tellement rare que.
Tu as vu, j'ai repassé ton linge.
T'as vu, j'ai sorti le chien. T'as vu, j'ai nettoyé ta voiture.
Voilà.
Mais en fait, ça, c'est vraiment le besoin typique de reconnaissance. C'est-à-dire que la personne a tellement peur qu'on remarque pas qu'elle a fait un effort, qu'elle le dit.
Et ça, c'est typiquement masculin.
Voilà. Et en même temps, ça gâche un peu le truc. C'est-à-dire que le fait de le dire, la personne te dit, en général, elle te répond, c'est bien, quoi. T'as fait ton boulot.
Voilà.
Et là, la reconnaissance.
Tu l'as fait parce que tu attendais quelque chose,
Et la reconnaissance qu'on cherchait. Et bien, d'un coup, elle s'effondre parce que c'est pas du tout l'effet escompté. Donc voilà.
Et on ne fera plus jamais la vaisselle, puisque c'est comme
jamais.
Ça.
Mais bon,
t'es jamais
temps,
contente.
Ce besoin de reconnaissance, à noter quand même, c'est quand même un très fort manque de confiance en soi. Et c'est peut-être un moyen d'exister, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait un métier qui nous plaît pas, est-ce qu'on est soumis, est-ce qu'on est dans une espèce de d'humilité ou de.
C'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être dans le travail, voilà. Ça peut être voilà dans plein de choses.
Alors dans le travail c'est encore pire quoi, si on commence à dire à son supérieur, t'as vu j'ai vidé la poubelle, bon, on cherche une augmentation ou on cherche quelque chose, mais je veux dire c'est vraiment là par contre ça peut amener, par contre c'est grave quand on en parle comme ça, on a l'air plaisanté, mais c'est grave parce que ça peut amener vraiment un mouvement de panique, ça peut amener une espèce de dépression, de déprime, ce fait de jamais être reconnu, de toujours être obligé de dire t'as vu j'ai fait ça, t'as vu j'ai fait ça, alors que normalement la reconnaissance c'est quelque chose qui doit venir quand même naturellement, c'est-à-dire que si on ne demande pas, si on ne dit pas à sa compagne ou à son compagnon t'as vu j'ai fait la vaisselle, un jour peut-être qu'on aura un petit mot sympa en disant ben ah c'est sympa, merci, j'ai apprécié le moment, t'as fait la vaisselle, ça m'a bien aidé. Mais peut-être que la reconnaissance c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher en fait, ouais. Et je crois que plus on la cherche et moins on la trouve, donc voilà, pour notre
c'est
ami
comme
Laurent,
le bonheur,
voilà, c'est pour notre ami Laurent, il faut quand même arrêter de, mais là c'est la deuxième cervicale, c'est pénible parce que ça peut aussi bien bloquer le cou et les épaules, et ça peut aussi bien provoquer des douleurs dans derrière de la tête et provoquer même des troubles du sommeil et tout, c'est quand même assez particulier quoi.
Bon, j'espère Laurent voilà que voilà. Ça vous aura éclairé, puis voilà encore une fois nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un peu de suite, donc n'hésitez pas à nous dire effectivement si il y a en quelque part chez vous cette nécessité de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance ou cette absence de reconnaissance, donc voilà, vous nous témoignez tout ça via les réseaux sociaux, via les mails comme vous l'avez fait, contact@radioopenfm.fr. Il y a le chat également de la radio sur lequel vous pouvez vous rendre, nous n'avons même pas ouvert la page ce matin, on est déjà parti en jour férié si
ouais,
vous
c'est
voulez
clair, c'est clair.
Mais on va se mettre sur le radioopenfm.fr et vous pouvez chatter avec nous en direct ce matin. Alors pour l'instant et avant une autre question dans la deuxième moitié de cette émission tout à l'heure, reprenons peut-être le déroulé des médecines douces et naturelles que nous avons déjà évoquées en rappelant donc succinctement à chaque fois en quoi elles consistent.
Voilà. Donc on continue avec l'art thérapie, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Pratiquer des activités artistiques dans un but thérapeutique, donc activité artistique c'est en principe dessin, peinture, éventuellement écriture, donc poèmes et tout ça. Peut-être écrire des musiques. Ça peut être une forme d'art thérapie. Et c'est pour ça aussi que le tatouage dont on parlait tout à l'heure, c'est une forme d'art thérapie qui peut-être s'intégrer dans un système plus généraliste. Après, il y a deux sortes de gens qui font des tatouages. Il y a des gens qui ont vraiment cette envie d'exprimer quelque chose, une émotion, un souvenir, quelque chose. Et il y a des gens qui ont, je vais en faire bondir encore quelques-uns, mais malheureusement c'est le cas, il y a des gens qui ont besoin de se cacher leur corps, de cacher leur peut-être leur embonpoint, leur maigreur, derrière des tatouages, et le fait de cacher le corps, là c'est plus du tout de l'art thérapie, mais au contraire ça met le doigt sur une dépression et sur quelque chose de beaucoup plus profond, donc attention quand même de pas se laisser avoir.
C'est pour ça aussi que les tatoueurs bien souvent avant de procéder il y a un processus de réflexion, on vient pas, on dit je veux me faire tatouer, ok asseyez-vous, voilà. Tac, non, on discute pour être sûr que c'est pas pour de mauvaises raisons finalement.
Après par contre aujourd'hui vous pouvez faire tatouer des citrouilles.
Voilà, mais il faut regarder demain.
Donc,
et demain, pour la Saint-Valentin, c'est moins voilà. Pour Noël, tout ça.
Par contre, la citrouille demain sera encore là, effectivement. Donc voilà, réfléchissez si vous faites un tatouage. Mais il y a beaucoup de gens quand même, malgré tout, qui l'utilisent pour cacher un défaut. Et ça peut quand même vraiment être le symbole de quelque chose de plus profond et dont le thérapeute devra quand même s'occuper et s'intéresser parce que. Donc par rapport à l'art thérapie, on a la vocathérapie. Donc là, c'est l'art d'utiliser sa voix. Donc ensemble de techniques.
Ah, je crois que c'était les avocats. L'avocat-thérapie.
Je ne comprenais pas
le concept.
Alors, on peut en parler aussi, il y en a peut-être certains.
En cas de divorce, faites appel à l'avocat-thérapie, ça va vous aider.
Ou en ce moment, il y a peut-être certains hommes qui en ont besoin, puisque visiblement, il y a des gens, des langues qui se délient. Et il y a des choses pas très cool qui remontent à la surface. Et ce qui est un petit peu dommage, on peut en parler 5 minutes, c'est que là, effectivement, il y aura besoin d'un avocat. Mais par contre, la vocathérapie, donc le côté utiliser ses cordes vocales, ça peut être la chanson et tout, mais ça peut être simplement aussi le fait, et on en parle souvent dans cette émission, d'exprimer, de dire les choses pour éviter d'avoir des émotions refoulées et des sentiments de gêne et de rancœur. Et je pense que par rapport au phénomène de harcèlement sexuel et peut-être même d'attouchement et voire de viol, je crois qu'on est qu'au tout début de ce que les gens peuvent dire. Et je crois que là, le bouton vient de sauter, je crois que le blouson va s'ouvrir et on va découvrir des choses qui sont vraiment pas très sympas. Et je crois que c'est vraiment que le début. Et malheureusement, ça reflète un petit peu la perversion de l'esprit humain. Et on ne peut qu'encourager les femmes et les jeunes filles victimes de cette mauvaise chose à continuer à parler, à continuer à créer des groupes sur les réseaux sociaux, à continuer à balance ton port, hashtag balance ton port, hashtag le numéro lourd,
je veux dire, relou.
Il faut, voilà, le numéro relou, refaites des numéros relous, refaites ce genre d'initiative, parce que je crois que ça peut servir. Et il faut vraiment prendre conscience que ça fait quand même 40 ans qu'on prend l'égalité homme-femme, et depuis les années 68, on est quand même voilà, 70, ça fait 47 ans qu'on prône cette égalité.
Et on
il faut quand
compte.
Même qu'il y ait des coups comme ça, un petit peu qui arrivent pour comme harcèlement sexuel et tout, pour qu'on se rende compte que ben, l'égalité, elle est simplement sur le papier, elle est loin d'être à 100%.
Et encore sur le papier.
C'est par, même par contre, pas... effectivement, des gens qui cherchent du boulot, peut-être se recycler dans le système avocat, parce que je pense que d'ici quelques années, il y a certains hommes qui vont en avoir besoin.
Exactement.
Et on risque d'en manquer cruellement.
Voilà. Donc, mais la parole, voilà. On en parle, c'est de l'actu, mais c'est mine de rien voilà, lié à ces thérapies.
Ces
voilà.
thérapies, parce que les gens, les personnes, les femmes surtout, qui ont subi des attouchements ou peu importe, des pressions sexuelles, peu importe le mot qu'on leur donne, mais que ce soit pour obtenir une faveur, pour obtenir une promotion ou pour peut-être se libérer d'un mari un peu trop entreprenant en disant je lui dis oui comme ça. Parce que même en couple, et c'est là où je trouve quand même que le système juridique est mal fait, puisque le viol entre époux n'existe pas, il y a des femmes quand même qui disent oui simplement parce que le mari leur demande 20 fois par jour, et qu'à la fin ils se disent bon, mais maintenant comme ça il me foutra la paix. Je veux dire, si ça s'appelle de l'amour, change de métier, quoi. Parce que si on arrive à dire oui pour qu'on se foute, on nous foute la paix, donc oui pour promouvoir un film, oui pour avoir la promotion canapé, oui pour, là je pense quand même que ça peut entraîner quand même des pathologies très graves. Et il faut pas quand même s'étonner de voir qu'il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de suicides, il y a de plus en plus de choses comme ça. Je pense qu'il y avait peut-être pas il y a 30 ans ou 40 ans. On a découvert il y a pas longtemps tout le système pédophile dans la religion, dans l'église catholique et parmi les prêtres. Maintenant on découvre un petit peu le milieu attouchement sexuel, viol et pression dans le milieu du cinéma, du showbiz et peut-être ailleurs. Et on n'a pas fini parce que ça se passe tous les jours dans des bureaux, dans la banque ou au-dessus de votre tête, et on n'est pas forcément au courant. Et je trouve qu'il faut en parler.
Que nous réserve l'avenir.
Voilà, et c'est pour ça que on est dans cette émission où on essaie d'expliquer aux gens que le fait de garder des émotions et tout depuis notre plus tendre enfance peut avoir des répercussions à la cinquantaine. Là on est quand même dans des émotions, je veux dire, un viol c'est pas un angle incarné, quoi, c'est quand même la taille au-dessus, hein.
Donc parlez, libérez-vous, voilà, ne gardez rien pour vous. Et
surtout, alors, une chose que moi je peux vous dire par rapport à tout ce qu'on dit dans cette émission, parler c'est une chose, ça c'est une chose qui peut vous libérer, surtout citer les noms. Parce que le fait de dire on m'a fait ça, c'est une chose. Le fait de dire telle personne m'a fait ça, vous verrez que ça aura un effet beaucoup plus libérateur, beaucoup plus.
Le fameux sac à dos.
Ah oui, il ne faut pas hésiter à citer les noms.
Ouais.
Bon, on continue dans notre petit laïus de ce matin. Donc la vocathérapie vocale, on va dire, pour ne pas confondre avec l'avocat. La vocale thérapie, donc ensemble de techniques, la méditation artistique qui consiste à chanter, donc afin de soulager la douleur, et pas confondre avec la musicothérapie. Donc la musicothérapie, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Il faut déjà à la base savoir ce que c'est des chakras. Donc les chakras, ce sont des portes qui amènent de l'énergie sur différentes couches d'aura. Donc on a 7 chakras principaux, on a 7 couches d'aura. Chaque chakra est une porte d'entrée à une couche qui correspond. Donc c'est très compliqué à expliquer. Ah. Simplement pour expliquer que chaque chakra correspond à une note de musique, do ré mi fa sol la si. Et quand on fait vibrer, quand on a un chakra qui est malade et qu'on fait vibrer la bonne note de musique, si c'est par exemple le premier chakra, on fait vibrer la note Do, et en entendant cette note Do, on ouvre la porte, le chakra va se remettre un petit peu en forme. Donc il y a l'art-thérapie, la musicothérapie, la vocale-thérapie, qui sont trois techniques différentes et qui sont liées au son, à l'expression, au dessin, et donc c'est quand même très intéressant.
Si vous voulez en savoir plus sur les chakras, on fera une émission particulière, vous pouvez poser vos questions. Donc,
C'est très difficile à expliquer, parce qu'en fait, il faut... moi j'explique les crachats.
C'est de l'âme.
Ça c'est encore une autre thérapie. Bon, j'explique les chakras. Quand on est par exemple en formation Reiki, mais j'ai des éléments avec moi, des tableaux, des choses pour montrer. Là, à la radio, c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être le jour, on expliquera les chakras, on essaiera de faire une émission directement en vidéo.
En live Facebook,
pour bien faire comprendre aux gens, parce que j'ai peur que ça soit mal interprété.
Tu verras avec ton paperboard la prochaine fois, et on fera ça tranquillement.
Voilà, ensuite on a donc l'auriculothérapie. Ça c'est quelque chose d'assez particulier, donc qui repose sur l'hypothèse d'une correspondance entre l'oreille externe et les différents organes du corps. Et je vous promets qu'un jour, on aura donc une auriculothérapeute au téléphone qui nous expliquera un petit peu sa technique. Et on a aussi l'auto-hypnose. Donc j'ai une amie qui est hypnothérapeute, qui un jour aussi prendra 5 minutes pour nous appeler, pour nous expliquer un petit peu la technique. Donc l'auto-hypnose qui vise à atteindre soi-même un état mental de moindre vigilance, permettant d'entrer en contact avec son subconscient. Ensuite, donc, il y a l'auto-suggestion, ce qui s'appelle la méthode Coué. Donc, je vais bien, tout va bien. Ça, par contre, j'ai un petit peu de mal, là, personnellement. Le fait de se dire tous les matins, je vais bien, je sais pas si ça change quelque chose dans mon état de santé. Donc, c'est particulier. Mmh. Et en fait, il y a l'Ayurveda, donc, médecine traditionnelle de l'Inde. En fait, j'ai un petit peu accéléré les lettres A, parce que vous avez remarqué que c'est classé par ordre alphabétique. Parce que la première lettre B, c'est les fleurs de Bach.
Ouais.
Et là, les fleurs de Bach, on va peut-être prendre 5 minutes, parce que les fleurs de Bach, ça n'a rien à voir avec les huiles essentielles. Et donc, en fait, je voulais simplement ce matin qu'on fasse un petit peu l'explication des fleurs de Bach pour pouvoir faire un petit peu la différence entre l'aromathérapie et les fleurs de Bach. Et vous allez comprendre très vite. Donc, je vous explique ce que c'est. La fleur de Bach, c'est une utilisation de 38 élixirs floraux, donc les fleurs de Bach, qui visent à agir sur les états émotionnels. Alors, la différence entre les huiles essentielles sont obtenues par pression à froid ou à chaud sur différentes plantes. Donc c'est vraiment un extrait concentré. Les fleurs de Bach, ce sont des fleurs très particulières qui sont ramassées. Alors, en théorie, le docteur Bach, puisque c'est un docteur qui a inventé la technique, le docteur Bach, ça c'est quelque chose de très pratique. Vous vous pointez un matin, vous avez mal dormi, vous êtes de mauvaise humeur, vous ne travaillez pas. Parce que comme c'est basé sur l'émotion, les fleurs de Bach doivent être ramassées dans un espèce d'esprit zen, amour, zen attitude, positive attitude.
On les charge de plein de bonnes choses.
Voilà. Donc, on les ramasse, on les met dans de l'eau, dans de la rosée du matin. Donc, imaginez une marmite. Une marmite 100 litres.
On est bien dans Halloween, là. On est parfait.
Voilà. On est raccord. On met 500 kilos de fleurs, de la même fleur, dans de la rosée du matin. On va obtenir ce qu'on appelle une espèce de c'est pas de la teinture mère, mais c'est un extrait, une base mère, 100 litres de produit. Et ces 100 litres vont être dilués dans de l'eau de source. Donc c'est dilué à des
doses. Le chercher direct à la source aussi ou...
Voilà, infinitésimale, donc c'est vraiment une dilution, je crois que c'est de 10 000 ou 100 000. Mais c'est quand même très efficace. On prend un exemple tout bête. Les fleurs de Bach, c'est pareil, ils doivent pas être utilisées n'importe comment, mais je vais vous donner un exemple parce qu'on a parlé tout à l'heure du surmenage, de la fatigue et du changement d'heure. Et en ce moment, il y a quelque chose qui marche très bien chez les fleurs de Bach, c'est ce qu'on appelle olive. C'est un extrait à base de fleurs d'olivier. Quand vous le prenez, donc c'est une petite goutte, une petite dosette qu'on se met sous la langue et qu'on laisse fondre, ben olive chez fleurs de Bach a une particularité, c'est que ça vous redonne un tonus vraiment physique et mental. C'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme un jus d'orange, c'est vraiment quelque chose de très tonique, très tonifiant. Et pour voir que ça atteint ce degré de concentration, c'est vraiment quand même très efficace et c'est très surprenant. Donc c'est pour ça que à utiliser sans modération. Je voudrais quand même lancer un petit message. On a parlé tout à l'heure en début d'émission de ce fameux changement d'heure au niveau du mois d'octobre. Donc là on est dans un changement de saison. Pour les gens qui sont un petit peu branchés quand même sur tout ce qui est zen thérapie et médecine douce, en général en ce moment on prend un petit peu de zinc en oligosol, ce qu'on appelle, ce sont des petites ampoules. On en prend certainement souvent entre la fin de l'été et le printemps, entre l'été et l'automne, et entre l'hiver et le printemps. C'est-à-dire qu'on en prend deux fois dans l'année. Donc là c'est à peu près maintenant le moment qu'il faut le faire. Donc c'est une petite cure comme ça qui va éviter les coups de fatigue, les choses comme ça. Mais le pire en ce moment, c'est ce changement d'heure. Ce changement d'heure, il est particulier.
Parce que,
au départ, ça a été fait, et je peux comprendre, ça a été fait pour des raisons économiques, puisque ça a modifié certaines choses, et qu'au niveau, par exemple, chauffage, consommation électrique et tout, ça a vraiment eu un effet important. Mais, ça a un effet très important sur le corps humain. C'est un effet, quand par exemple, on passe à l'heure d'été, on en rajoute une heure, on est décalé au soleil, par rapport au soleil, on est décalé de 2 heures. C'est-à-dire que normalement, là, on vient de retarder d'une heure nos montres, et si on voulait se retrouver à l'heure du soleil, il faudrait que fin avril, on retarde encore d'une heure. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est l'effet immédiat sur les personnes âgées, sur les enfants, sur les animaux, sur les plantes. Comment faire? Quand on sait en plus, et là, je vais me faire des ennemis, mais là, c'est sûr. Mais tant pis, je suis là pour ça. Quand on sait que le changement d'heure a été efficace la première année au niveau des économies d'énergie, mais que ça fait 40 ans qu'il ne sert plus à rien. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis désolé, mais tous les jours on entend quand même des choses, l'Europe. Il y a quand même deux choses qui sont flagrantes en ce moment par rapport à l'Europe. Alors là, on dérive complètement par rapport aux médecines douces, mais ça sera mon coup de gueule du matin. On a imposé des quotas laitiers, donc les gens sont obligés de jeter du lait, donc maintenant il n'y a plus de beurre. Donc le prix du beurre est en train de monter, voire de doubler, puisque la tonne de beurre a doublé. Donc il faudrait peut-être arrêter un petit peu avec les quotas laitiers, parce que quand les quotas laitiers ont été mis en place il y a 30 ans, il y avait 58 millions d'habitants, maintenant il y en a 67 millions, et la Chine est passée de 1 milliard d'habitants à 1 milliard 200 millions, donc il y a une consommation normale qui augmente.
Il faut s'adapter.
On est d'accord. Et en même temps, on est quand même le seul pays européen à changer d'heure. Donc je voudrais savoir là où on va, où on met les pieds et à quoi ça sert. Parce qu'il faut changer les horaires de train, les horaires d'avion, les horaires de centaines de millions de gens, parce que les gens qui viennent en France ne sont pas habitués, et je ne comprends plus. Donc, en même temps, on nous dit, ben voilà, la médecine coûte cher, la sécurité sociale peut moins vous rembourser, il y a de plus en plus de pathologies, il y a de plus en plus de choses graves, mais en fait, la dépression, le manque de sommeil, le manque d'appétit qui sont provoqués par ce changement d'heure, ça coûte combien de millions d'euros par an à la société? Donc, il faudrait peut-être arrêter quand même de faire n'importe quoi. Il faut pas faire un changement d'heure parce qu'on a envie de changer d'heure. Il faudrait faire un changement d'heure parce que c'est vraiment efficace. Moi, je sais quand même que ça fait, 2-3 jours, là, j'ai un petit peu de mal. Moi, je sais qu'il me faut à peu près un mois pour arriver à me recaler. Donc, je sais pas si tout le monde est comme moi, et j'espère que non, parce que sinon, je suis peut-être, je dis pas que je suis un cas à part, mais voilà, il faut à peu près entre un mois et demi pour se recaler au niveau de l'organisme. Donc, et combien de, même des professionnels de la santé, je veux dire des médecins, des infirmières, des choses comme ça, demandent à arrêter ce changement d'heure.
Ah ouais, chaque fois, je crois qu'à chaque changement, il y a la polémique de est-ce qu'on ne faudrait pas arrêter. Donc voilà, mais pour l'instant, ça serait tellement, voilà.
En même temps,
la machine est en route, alors pourquoi l'arrêter, voilà.
En même temps, honnêtement, les économies qui sont faites au niveau des énergies, elles vous rentrent dans la poche, parce que je pense pas qu'on en profite beaucoup.
Je suis pas sûr.
Donc après voilà, le problème c'est qu'on est rentré, et ça malheureusement, quand on parle des choses non exprimées, quand on les remarque au niveau individuel, c'est-à-dire comme tout à l'heure on parlait d'une femme qui a subi des attouchements et qui ne dit rien, ça peut avoir des conséquences. Mais quand on a des choses non dites au niveau d'une nation, là c'est quand même encore plus important, puisque il y a beaucoup de gens, et je pense qu'il y en a 80% qui sont pas favorables à ce changement d'heure, mais personne ne dit rien, personne n'ose.
Nous souffrons au silence.
Je sais pas, on a lancé balance ton port, hashtag balance ton port, on peut faire hashtag arrête le changement d'heure.
Dire, c'est ça.
Et on verrait un petit peu combien de temps, combien de gens signeraient cette pétition, et je suis sûr qu'on serait très surpris.
Ça pourrait aller très vite, effectivement. Donc voilà, mais ça fait, voilà, on dérive un peu, mais il y a des, il y a un fondement quand même qui revient vers.
Il faut rester logique, quoi. Je veux dire, si tout le monde, ne dit rien par rapport à un problème qui touche toute la population française, là, je pense que c'est encore plus grave. Donc,
le coup de gueule est passé. En tous les cas, ce matin, clairement. Bon, et le temps tourne, hein. On n'a pas changé d'heure, mais je vois qu'on est déjà quasiment à midi moins le quart. Ouais. Alors, on va marquer une dernière petite pause, et puis, parce qu'après, on a encore une question d'Emeline qui nous a écrit depuis Couzex cette semaine, donc il va falloir qu'on y réponde, et puis on dira peut-être un petit mot de la peur aussi, parce qu'on l'a dit, hein, c'est Halloween, ouais. Donc quand même qu'on évoque la peur. Donc, encore quelques petites bricoles à évoquer avant la fin de cette émission. Restez surtout avec nous, nous sommes toujours en direct sur OpenFM. Ouais.
Que leur parfum se mélange, oh, oh, oh. Au bord de la Seine ou du Gange, aucune frontière ne les dérange. Et puisque nos regards s'effleurent et qu'on vit tous sous la même lumière, oh, oh, oh. À chacun son emblème, sa couleur, mais nos souffrances sont les mêmes. Oublions ces détails qui nous séparent. Alors laissons-les rêver. Revoir le soleil se lever. Alors laissons-leur une chance. Tu sais, riche de leur différence. Laissons-les rêver. Un peu certains restent sans cause, que d'autres cherchent le bonheur, oh, oh, oh. Que dans leur cœur des bombes explosent, et qu'ils soient ici ou d'ailleurs. Oublions ces détails qui nous séparent. Alors laissons-les. Revoir le soleil se lever.
bobo.
Et on va, bah ça y est, hein, rentrer dans le dernier quart d'heure de cette émission, Jacques. Oui. On passe très vite.
Oui.
On a plein de choses à dire, c'est un sujet inépuisable. Hein, donc, en même temps, entre vos questions et les sujets voilà, qui parfois sont d'actualité, qui nous permettent...
Il faut qu'on voit avec la direction d'OpenFM si on peut faire 8 heures par jour. En
fait. Voilà, c'est ça, qu'on aille au moins jusqu'à 16 heures.
Voilà.
Prochaine émission tout à l'heure, Equalizer. Donc,
il faut qu'on fasse 8h-16h tous les jours pour arriver à rentrer un petit peu dans le
truc. À peu près le tour d'ici à juin.
Voilà.
Voilà.
D'ailleurs, à propos de 16 heures, on va saluer l'ami Philippe.
Oui.
En espérant que voilà,
ça, il soit remis sur pied. Voilà. Il passe souvent nous voir les mardis matins, donc on pensait le voir. Donc s'il nous écoute,
alors lui c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait il est venu. Vous rappelez-vous, il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Hein, il a commencé à nous dire qu'il avait mal au ventre, et puis d'un coup, on lui a su un petit peu ce que c'était. Et du coup, il s'est fait opérer,
voilà. Mais
carrément.
Et a priori, il va mieux.
Et voilà, donc on le salue et vous le retrouverez certainement.
Voilà, 16h cet après-midi aux commandes d'Equalizer aux côtés de Thierry. Et puis la semaine prochaine, il peut venir nous rejoindre voilà, pour papoter un petit peu dans cette émission. Et on préparera le café comme d'habitude. Donc ça sera avec plaisir. Nous, en attendant, il va nous rester 10 minutes, Jacques, pour déjà répondre à la deuxième question qu'on a reçue cette semaine en provenance d'Emeline, qui nous a écrit de Couzex, qui nous dit qu'elle a des sinusites régulières et des nuits très courtes et agitées. Est-ce que tout ça peut être plus ou moins lié?
Alors, les nuits très courtes et agitées, ça c'est...
Je vois où tu vas en venir. On va lui laisser ça.
Ça peut quand même être une thérapie. Moi, je dis ça, je dis rien. Je veux dire,
pas à s'en plaindre non plus.
Si on fait des folies de son corps, faut pas se plaindre le matin qu'on est fatigué.
Voilà.
D'accord. Non, ça c'est...
Ça donne pas forcément des sinusites, à vrai. A priori.
J'allais dire encore une bêtise, mais je préfère pas insister sur le sujet parce que j'allais dire que voilà, si on a un petit peu la tête dans le cul, ça peut. Mais bon, alors donc on est vilain ce matin, on dérape bien là et puis on n'aura pas le temps de tout expliquer. Dans la sinusite, c'est le côté à ne pas sentir les choses arriver. Ça paraît comme ça bête, mais en fait voilà, quand on a une sinusite, c'est qu'on perd l'habitude peut-être de d'analyser nos priorités. Et on sent plus les coups et les événements arriver.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est un peu comme du style, vous vous pointez tous les matins en retard au boulot et vous sentez pas le licenciement arriver. Donc la sinusite, c'est vraiment pour éviter les peurs aussi. C'est-à-dire que si on a peur d'être licencié, si on a peur de divorcer, si on a peur de se séparer, l'organisme bloque tout. Donc on n'a plus aucune sensation au niveau du sinus et on sent plus rien.
Et ça peut générer, ça dit, des nuits agitées.
Voilà. Ah, tout à fait.
T'as vu un peu?
Ouais, non, mais je vois que tu retombes sur tes pattes. Donc,
tu me signeras mon diplôme à la fin de l'émission, hein, quand même.
Oui, ça peut aussi provoquer des nuits agitées. Ça peut provoquer éventuellement des ronflements et des nuits agitées pour le partenaire parce qu'il dort plus. Ouais, ça peut être... Mais par contre, les nuits agitées, c'est pas trop lié avec la sinusite. C'est plus lié, à mon avis, à un problème de tension, d'hypertension, soit un problème de digestion. Ça peut être quand même assez compliqué, mais en général une mauvaise digestion entraîne quand même des nuits un petit peu perturbées, hachées et agitées. Donc voilà, à surveiller, surtout à faire un petit peu prendre des initiatives et faire ce qu'il faut, parce que ça peut aussi provoquer à long terme des nuits blanches complètes, des insomnies, et forcément là ça jouera sur les nerfs, sur le caractère, sur le côté irritable, et ça peut être désagréable pour l'entourage, quoi.
Ouais, donc voir voilà s'il n'y avait pas des appréhensions, des choses que voilà fait. Vous avez peur de voir venir. En tous les cas, Emeline, n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Laurent, à nous confier ou infirmer tout ça et qu'on aille un petit peu plus loin encore, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Vous pouvez, ça ne veut absolument rien dire, nous envoyer toutes vos précisions évidemment par mail donc durant les 7 jours qui viennent. Et puis Jacques, finalement on va rester plus ou moins dans la thématique puisqu'on a dit qu'on allait parler de la peur, parce qu'on est le jour d'Halloween, donc ça nous paraît plutôt raccord. On a déjà parlé de ce sujet là mais c'est vrai que c'est un sujet qui crée tellement de choses finalement.
Oui, alors le problème c'est que pourquoi par exemple quelqu'un qui n'a jamais été piqué par une araignée, qui n'a jamais été piqué par un serpent, qui n'a jamais été mordu par quelque chose a peur? On peut être mordu par un chien, on n'a pas forcément peur des chiens, mais il y a quand même des gens qui souffrent de la peur des araignées et qui n'ont jamais été ensevelis dans des araignées. Il y a des émissions, je ne veux pas les citer comme ça, mais des émissions où on touche des animaux, où vous mettez la tête dans un bocal qui est rempli de cafards ou d'araignées, même un cafard ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément venimeuses, le fait qu'ils courent sur notre corps, on en a peur. Donc là, c'est, on se pose beaucoup la question, parce que d'où vient cette peur? Comment elle peut être interprétée? Donc il y a la peur des araignées, la peur des serpents.
C'est-à-dire qu'on ne naît pas avec une peur finalement des araignées,
non, a priori. Je pense qu'on se la crée psychologiquement. Halloween, c'est toujours le côté, il y a toujours le côté sorcière, mais la sorcière est aussi liée à la toile d'araignée. La toile d'araignée, c'est quelque chose dans lequel on s'empêtre, dans lequel on peut plus défaire, que ça colle à la peau. En principe, on est pris au piège dans une toile d'araignée, et quand on est pris au piège, on meurt parce qu'on va être bouffé, on va être mangé par la bestiole. Donc, mais personne n'a peur des araignées en ayant été enseveli dans des toiles d'araignées. C'est pour ça que les peurs sont très difficiles à expliquer. Et c'est pour ça qu'elles sont une projection du subconscient. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des émotions non exprimées, c'est les émotions qu'on a physiquement et émotionnellement, mais on en magasine aussi des émotions subconscientes, des peurs subconscientes. Quand par exemple vous êtes couché par terre, vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes allongé sur votre tapis. Si une araignée arrive, vous allez la voir entre 4 et 20 fois plus grosse que ce qu'elle est vraiment. Pourquoi? Parce que la vision au ras du sol n'est pas la même que la vision quand vous êtes, quand vous faites 1m70 et que vous regardez une toute petite araignée par terre. Mais si vous êtes couché, vous avez l'impression que c'est une énorme mygale et une tarentule qui vous fonce dessus. Et le problème, c'est que la petite araignée qui fait 2 cm de long, elle a pas peur. Donc elle va vous foncer dessus, alors que vous, vous allez vous lever en hurlant. Il y a des gens qui ont peur des souris.
Tu regardes souvent la télé allongée par terre. C'est peut-être pour Noël, pensez à commander canapé.
En fait, moi, je suis quelqu'un de gentil. En fait, c'est mon chien qui est sur le canapé et c'est moi qui suis par terre parce que je suis trop gentil.
C'est une thérapie à mettre en place, donc quand même.
Non, mais enfin, en même temps, j'ai un chien qui fait 45 kilos, donc quand il commence à monter sur le canapé, je me sens pas la force de lui dire non. Quoi.
C'est ça. Tu vas lui chercher un petit quelque chose à boire en plus.
Donc en fait, quand on est par exemple dans cette démarche d'Halloween, parce que alors, ça c'est encore quelque chose dont on pourrait encore avoir un coup de gueule, mais Halloween c'est pas du tout une fête française. Ça a encore été quelque chose de commercialement créé pour vendre des bonbons. On est d'accord. Surtout les bonbons, c'est bon pour la santé. La nutritionniste de Open FM va nous en parler.
Elle nous confirmera.
Et si un jour on savait vraiment si on pouvait avoir la recette, si un jour quelqu'un osait donner la recette des bonbons à l'antenne.
Avec du gras de porc et tout ça.
Avec donc la moelle de épinière de porc. Voilà. On va pas, on va laisser ce boulot.
On va faire rêver encore les enfants.
Je vais pas prendre le côté méchant. La nutritionniste d'Open FM donnera un jour.
Ça je vais donner une idée.
La recette des bonbons. Mais bon, voilà. Donc c'est pas du tout une commerciale, une fête française. Donc c'est vraiment dans un but commercial. Mais les gens qui créent comme ça des monstres et tout, ce sont vraiment des peurs qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils essayent de projeter sur les gens. Sauf que, là où il y a un petit bémol, c'est que, tout le monde n'a pas peur des araignées, tout le monde n'a pas peur des sorcières, tout le monde n'a pas peur des monstres. Donc si votre voisin ou un ami ou quelqu'un de votre famille vous projette une peur comme ça d'une araignée et que vous n'en avez pas peur, en fait la personne reçoit une double peur, c'est-à-dire qu'elle vous projette quelque chose que vous lui renvoyez.
Pourquoi moi j'ai peur et pas lui?
Et voilà, et donc là ça peut poser des questions. Et là n'oubliez pas, ce sont des peurs subconscientes, c'est-à-dire ce sont des peurs dont vous n'avez peut-être même pas conscience dans la journée. Donc quand vous faites le point le soir, si on regarde bien, ben, vous avez subi une émotion. On a parlé tout à l'heure des femmes à toucher, donc on va rester sur cette émotion parce que je pense que c'est grave et qu'il faut qu'on continue d'en parler. Moi, je me mets quand même à la place d'une jeune femme qui rentre chez elle le soir. Donc physiquement, elle a une émotion parce qu'elle est fatiguée, elle est stressée. Émotionnellement, elle a peut-être subi quelque chose. Et subconscient, au niveau subliminal, elle a encore une émotion et une peur. Si elle n'évacue pas tout ça, forcément, au bout de quelques années, ça va être une bombe à retardement, ça peut péter dans tous les sens, ça peut être très dangereux, et pour elle, et pour les gens qui l'entourent. Donc attention, parce que on avait parlé par exemple des peurs qui avoir la peur au ventre, les peurs qui provoquent par exemple des diarrhées, des coliques. Ben, la peur, quand vous avez vraiment un choc émotionnel, ça accélère le rythme cardiaque. Combien de gens, tous les gens qui ont eu peur, à un moment donné, vous sentez vraiment votre cœur, comme on dit, qui tape dans la poitrine. Donc le cœur qui tape, c'est une montée en pression dans les tuyaux, c'est plein de choses.
C'est pas anodin non plus.
C'est pas une diarrhée, quoi. Là, je veux dire, on prend le risque de faire péter un tuyau. Donc là, on est sur rupture d'anévrisme, AVC, infarctus. Donc une simple peur. C'est pour ça que bon,
c'est bien de se faire peur ponctuellement, voilà.
C'est bien de se faire peur. Mais par contre, voilà, si un jour vous voulez faire peur à votre voisin, avec une tête de monstre et que quand il ouvre la porte il s'écoule par terre et qu'il fait un infarctus, là je sais pas quelle répercussion ça peut avoir au niveau de vos émotions propres, mais ça peut quand même être très dangereux.
Donc, voilà. Et analyser pourquoi pas ce que vous décidez de faire pour faire peur à quelqu'un, ça peut peut-être vouloir dire des choses sur vous, voilà, finalement aussi. Après il y a plein de façons de faire peur, par exemple je pense au clown qui il y a quelques années était juste gentil dans les fêtes foraines, aujourd'hui ça devient un objet pour faire peur, voilà, on a le clown maléfique qui n'existait pas il y a quelques temps.
Comment on l'a transformé
Le pauvre. Et la sortie de ça au cinéma n'a pas arrangé les choses, je pense. On devrait en retrouver pas mal dans les rues sans doute ce soir. Et puis quand même, on peut dire aussi que il va nous rester malheureusement 2 minutes pour en parler, mais se faire peur, c'est aussi positif. On l'a dit, il y a aussi on y trouve du plaisir, mine de rien, quand c'est à petite dose.
Oui, donc là c'est.
On court après se faire peur quand on va regarder les films d'horreur et tout ça.
C'est peut-être un petit côté pervers, je sais pas, difficile à expliquer en tout cas.
C'est quoi, casser la routine, c'est essayer de sortir du confort.
Des fois, ça peut être aussi pour faire pour donner une image aux autres qu'on est courageux et tout, alors qu'au fond de nous, on a aussi peur que les autres, quoi. Quand on est un homme qui est avec une jeune femme qui va regarder un film d'horreur, quand la jeune femme lui saute dans les bras et qu'elle met, elle le prend par les bras en disant mon chéri, j'ai peur, et là tout de suite l'homme. Rassure-toi chérie, je suis là.
Mais qui lui-même a les yeux fermés depuis 3 minutes parce qu'il ne voulait pas voir ce qu'il y avait sur l'écran. Voilà, ça, elle ne le voit pas, voilà. Parce que t'es dans
donc
le noir.
Donc on imagine après la peur du dragon et la peur de l'araignée, c'est pas la même peur. La peur de l'homme avec un couteau et la peur du clown, c'est pas la même peur.
Et ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à la transmission. On dit qu'on n'est pas avec certaines peurs, par exemple des araignées, etc. Fais attention aux enfants parce que c'est nos peurs qu'on va finalement leur transmettre en leur disant attention, il y a une araignée, bah, c'est ça. Et donc du coup, l'enfant va se dire, bah, il y a quelque chose sans doute à. Il faut se méfier alors que lui-même naturellement n'aurait pas eu peur.
Et puis on n'est pas obligé de. Enfin, l'enfant n'est pas obligé d'emmagasiner nos propres peurs. Donc si on pouvait déjà se contenter de les garder pour soi, ça serait pas mal. Mais après, bon, il faut pas non plus tomber dans le délire. Je veux dire que il y a aussi le côté, on a le droit de s'amuser, de rigoler par rapport à ça. Mais voilà, si c'est quotidien ou si c'est répétitif, ça peut quand même devenir saoulant à force. Voilà,
oui, c'est parce qu'il y a des gens au quotidien qui, même pour la plaisanterie, s'amusent à faire peur aux autres, ça peut faire peur à un conjoint en permanence. Ça crée, ça génère mine de rien un stress.
On parlait du clown tout à l'heure et on va terminer là-dessus. Il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux où il y a quelqu'un qui est déguisé en clown qui est couché sous le lit de sa fille qui est adolescente. La fille a peur, ça dure 30 secondes. Il y a une crise de fou rire qui dure 15 minutes et après il y a 9 mois de thérapie. Donc attention quand même.
Voilà, ne pas faire n'importe quoi. Voilà, on s'amuse, c'est Halloween, mais on fait les choses gentiment. Ça doit rester un petit moment de fête et de plaisir. Et on va espérer souhaiter une belle Halloween à tout le monde, aux enfants. Il y a le côté bonbon. On va mettre à part l'aspect diététique, bien évidemment. Ça aussi, on n'en abuse pas. C'est comme la peur. Voilà. On y va avec parcimonie. Et puis voilà, passez du bon temps, amusez-vous. Et puis encore une fois, si vous avez plein de questions, pourquoi pas sur scène de la peur. C'est pas parce qu'Halloween c'est cette semaine. Voilà. On pourra continuer d'en parler évidemment la semaine prochaine. Vous avez donc toute la semaine pour nous adresser vos questions par les réseaux sociaux et par mail si vous le souhaitez. Jacques, ben on va lancer le générique de fin.
Vous avez aussi le droit de nous envoyer des bonbons.
Tu crois ?
Oui, bien sûr.
Je suis sûr qu'ils partageront pas. Je sais pas, on verra, je te dirai ça jeudi matin. Les laissez pas demain, ça sert à rien. Il n'y aura personne. Venez les poser mercredi soir uniquement.
Bonne semaine.
Et on continuera de parler de plein de choses semaine prochaine, bien évidemment. On rappelle qu'on peut te contacter. Il y a un numéro de téléphone enfin qui est arrivé, donc on peut y aller.
Oui, bien sûr, 09 87 16 81 25. Et bien sûr, si vous appelez le mardi matin, vous tombez sur le répondeur.
Voilà. Je suis. Mais Jacques vous rappellera sans faute. On se revoit mardi prochain à 11h pour d'autres aventures.
Oui, bien sûr.
Bonne semaine à toi.
Allez, salut.
C'était Mon Corps et Moi, le rendez-vous des médecines douces et naturelles. Partez à la découverte de votre corps et de son langage pour apprendre à mieux vous comprendre. Avec Jacques Bocquet, magnétiseur. À retrouver au 06 59 84 93 58. Et sur les sites et pages Facebook InVisio Veritas.